À tous. Alors, on poursuit ce matin avec notre thématique qu'on a débutée au début de l'année sur les quelques attributs de Dieu. On a vu la semaine dernière la fidélité, on finira le mois de janvier avec l'amour. Et ce matin, on va parler de la sainteté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un attribut? L'amour se définit un attribut par ce qui est propre à quelqu'un ou à quelque chose. Et lorsque nous parlons des attributs de Dieu, il s'agit des traits de sa personnalité, de ce qu'il est finalement dans son essence. Alors ce matin, on va aborder la sainteté de Dieu et ses différentes facettes de voir que nous sommes invités à poursuivre dans notre vie quotidienne. Alors est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont contents de venir parler de la sainteté de Dieu? Ah, je m'attendais à attendre une chose ce matin en parlant de la sainteté. Je m'attendais à une espèce de sens par rapport à ce sujet. Pour plusieurs, le sujet de la sainteté semble dépassé ou même démodé. Il n'en demeure pas moins que c'est un sujet d'actualité pour quiconque déclare avoir fait de Jésus son Seigneur. Le mot saint apparaît 600 fois dans toute la Bible. Et on retrouve plus de 700 fois, on retrouve plus de 700 fois quand on prend en compte les mots comme sainteté, sanctifié, sanctification, etc. Alors, vous vous demandez, mais pourquoi ce mot-là, sainteté, pourquoi c'est un sujet dont on n'aime pas parler? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que ce sujet ne semble plus intéresser personne, et en particulier souvent la jeune génération. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent à tort que vivre la sainteté, c'est être des gens stricts et sobres, vêtus d'habits et de coiffures démodées. Beaucoup pensent que c'est une vie austère, une vie sans joie, régie par une longue liste de principes dont tu dois, tu ne dois pas. Certains pensent que c'est des chrétiens, des gens qui passent leur journée qu'à prier, qu'à jeûner, qu'à chanter des vieux cantiques et lire leur Bible telle des moines, ne montrant aucun intérêt pour la vie normale. Pour d'autres, c'est des gens qui jugent et qui n'acceptent pas, que leur opinion ou leur principe soit contesté. Alors, toutes ces choses-là, c'est sûr que ça peut faire peur. Quand on voit, si on voit la sainteté comme ça, ça donne envie de la vivre de la même façon que les enfants ont envie de manger des épinards. L'enjeu de ce message ce matin, c'est qu'on regarde ensemble à ce qu'est réellement la sainteté de Dieu. Et mon premier point ce matin, c'est que la sainteté de Dieu, c'est sérieux. La sainteté de Dieu, c'est sérieux. On va faire une lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, versets 1 à 3. On lit les choses suivantes. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont il se couvrait le visage, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Notre texte commence avec une vision du prophète Ésaïe. Les commentateurs pensent que cette vision concerne son appel à devenir prophète de l'Éternel, c'est-à-dire un porte-parole de Dieu pour son peuple. La mission n'était pas simple pour le prophète parce que son rôle était essentiel. Son rôle essentiel, c'était d'annoncer à un peuple spirituellement aveugle, à un peuple sourd, à un peuple insensible qui avait besoin de revenir à Dieu. Il devait annoncer des temps difficiles envoyés par Dieu afin que le peuple se détourne de ses mauvaises voies. Et le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26, nous révèle que le roi Ozias, dont il est fait mention dans le premier verset, a bien commencé en tant que roi, mais il a très mal fini. En effet, on voit qu'il s'est enorgueilli à cause de la puissance et de la prospérité de son règne. Et c'est arrogant d'avoir la faveur de Dieu, c'est venu à vouloir un moment lui-même offrir un sacrifice à Dieu. Lui-même venait offrir des parfums dans le temple. C'était un service qui était réservé aux prêtres, aux descendants d'Aaron. Alors, le prêtre a bien essayé de l'empêcher, mais il n'a écouté personne. Et c'est sous leurs yeux qu'une lettre a été envoyée par Dieu et l'a frappé immédiatement. Ce dernier finit par mourir lépreux en 740, avant Jésus. Et c'est dans ce contexte que notre passage nous révèle que Dieu est un Dieu, un Seigneur qui règne sur un trône élevé, dont les vêtements remplissent le temple et qui est servi par des séraphins, des anges qui proclament sa sainteté. Et il est intéressant de voir que ces anges dans ce passage se couvrent les yeux, car ils n'osaient pas contempler directement la gloire de Dieu, mais également ils se couvraient les pieds, reconnaissant leur indignité par rapport à Dieu. Nous voyons les anges proclamer saint, saint, saint et l'Éternel. Cette triple mention de la sainteté de Dieu vise essentiellement à rappeler la séparation et l'indépendance qui caractérisent l'Éternel par rapport à notre création corrompue par le péché. Le terme employé ici en hébreu, c'est kadosh, qui signifie une absolue pureté morale. Cela veut dire libre de toute souillure. Dieu ne peut ni pécher, ni tolérer le péché. Dieu pratique toujours ce qui est juste. La révélation que Dieu accorde à Ésaïe est importante pour qu'il comprenne et qu'il prenne conscience que la sainteté divine est synonyme de perfection morale, de pureté et de séparation totale avec le monde. Et ce, à une époque d'apogée d'une décadence morale et spirituelle. Le peuple tombait dans l'arrogance. Il y avait une oppression des pauvres. Les juges étaient corrompus. Il y avait des relations sexuelles débridées, etc. etc. C'était le contexte d'Ésaïe. Le contexte dans lequel Dieu l'appelait pour que le peuple revienne à l'Éternel. Et on était tombé aussi dans une adoration superficielle. Les gens confessaient Dieu avec leur bouche, mais leur vie n'illustrait pas la confession de leur bouche. Je crois qu'il est important de comprendre que si Dieu nous appelle, nous, ses disciples, ses amis, cela ne signifie pas que nous sommes ses copains ou ses potes. Si Jésus a décidé de nous appeler ses amis, ça ne veut pas dire qu'on est ses potes et qu'on est ses copains. Il est le Dieu chrétien. Il est le Dieu saint qui ne tolère pas le péché. Et nous ne pouvons pas nous approcher de lui en étant arrogants et sûrs de nous-mêmes. Mais c'est avec respect et crainte que nous pouvons le faire. Vous savez, personne n'entre dans le bureau de son patron sans frapper, en s'installant au bureau et en mettant les pieds sur la table. Personne ne fait ça. Et je crois que nous, parfois, on prend un peu Dieu pour un copain. Et on s'approche de lui comme ça, en étant sûr de nous-mêmes. Vous savez, si les anges se couvrent en sa présence, si Ozias a été jugé à cause de sa désobéissance, nous lui devons la révérence. Si les anges se couvrent en sa présence, nous lui devons la révérence. Nous devons nous approcher de Dieu avec respect. Le mot sainteté a également pour racine un mot qui signifie retrancher ou séparer. Cela veut dire une mise à part, mettre à part, consacrer, être distinct, être différent. Dieu est à part. Dieu est différent de tout ce qu'il a créé. Il est sans faute par nature. Dieu est pur en lui-même et par lui-même. Ce que nous ne pouvons pas être. Les Ésaïe 59 dit en parlant de nous, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'ont cassé et l'ont empêché de vous écouter. Romains 3:23 dans le Nouveau Testament nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ces passages nous montrent que nous sommes séparés de qui Dieu est parce que le mal habite en nous. Le prophète Jérémie écrira que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Et cela nous amène à notre deuxième point ce matin. Dieu, si la sainteté de Dieu c'est quelque chose de sérieux, Dieu désire nous communiquer sa sainteté. Et on voit Ésaïe qui dit, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une brèche qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de prophètes. Il a poussé ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est exclu. Nous voyons ici ce qu'il se passe sur un homme lorsque Dieu révèle sa sainteté. Au contact de la sainteté de Dieu, Esaïe reconnaît qu'il est un homme pécheur. Il reconnaît qu'il a commis des fautes, qu'il a fait des erreurs, qu'il vit au milieu d'autres pécheurs et qu'il ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Le mot hébreu pour malheur ici, c'est Oé, qui nous parle d'un cri de désespoir ou un cri de chagrin. Pour ce cri, Esaïe pense que c'est une pour lui dire malheur à moi. Un cri de désespoir, je ne peux pas me tenir dans sa présence à cause de mes erreurs. C'est à ce moment-là que Dieu intervient par le biais de l'ange afin de purifier à l'aide d'une braise prise sur l'autel. Par le contact avec cette braise, ses fautes et ses péchés sont expiés. Le mot expié, c'est le mot kafar qui nous parle de couvrir, qui nous parle de purger, qui nous parle de réconciliation, qui nous parle de pacifier, qui nous parle de rendre propice, qui nous parle de couvrir le péché, qui nous parle de pardonner, qui nous parle d'écarter la colère. C'est seulement un acte de Dieu qui peut permettre de nous purifier ou de nous rendre ça. Seul un acte de Dieu peut faire ça. Nous ne pouvons pas être saints. Nous ne pouvons être saints que parce que Dieu nous rend saints ou Dieu nous sanctifie. Seul Dieu est saint par lui-même. Ce geste symbolise l'acte purificateur de Dieu. Dieu a rendu saint Esaïe parce qu'il désirait le mettre à part pour son service. Dans toute la Bible, nous voyons que Dieu a mis en place pour lui-même certains objets, a mis à part certains lieux, certaines personnes, afin qu'ils soient consacrés à son service. Et de la même manière, ce matin, Dieu nous appelle à le suivre. Dieu nous appelle à être saints. Dieu nous appelle à être mis à plein pour lui. Il souhaite que nous lui appartenions. Il désire être le Dieu qui règne sur nos vies. Mais pour que cela puisse se faire, il a dû payer le prix fort. Ésaïe 53, 9 nous dit, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ce passage est une prophétie d'Ésaïe qui, plus de 700 ans auparavant, annonce ce que Dieu va faire dans la personne de Jésus. Dieu va devenir homme et prendre la condamnation que nous méritons à cause de nos fautes, à cause de notre péché, pour que nous puissions être réconciliés, pour que nous puissions être couverts, pour que nous puissions être pardonnés, pour que la colère puisse être écartée de nous. Par le sacrifice de Jésus, nous sommes déclarés saints comme n'ayant jamais péché pour quiconque place sa confiance en lui. C'est ce qu'on appelle la sanctification immédiate. À partir du moment où tu places ta confiance en Dieu, où tu reconnais ton péché, tu reconnais ton besoin de Jésus, tu es déclaré saint. C'est la sanctification immédiate. Alors vous savez, si nous parlons souvent de l'amour de Dieu, et nous devons en parler parce que c'est important, cet amour ne marche pas sans sa justice. Et c'est l'ensemble, justice plus amour, qui fait la sainteté de Dieu. Une justice sans amour n'est pas la sainteté. Mais l'amour sans justice ne l'est pas non plus. Imaginez un juge qui ne condamne pas le coupable qui aurait tué ou abusé d'un de vos proches. Et ce juge déclare « Je ne peux pas condamner parce que je l'aime. » Et finalement, il laisse partir cet homme, cette personne qui aurait fait du mal à quelqu'un de votre famille, le laisse partir, sans que ce dernier n'ait à s'expliquer ou à s'excuser. Je suis convaincu qu'on réclamerait que justice soit faite. On réclamerait que justice soit faite juste pour pouvoir se reconstruire, pour se dire, mais oui, effectivement, il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose de mauvais qui a été fait, et j'ai besoin de l'entendre pour pouvoir aussi guérir et me reconstruire. Imaginez qu'au paradis, on se retrouve avec quelqu'un qui a commis des atrocités, qui ne s'est jamais repenti et qui est à côté de vous. Ce paradis, c'est un véritable enfer. Mais la justice et l'amour de Dieu se sont conjugués à la croix, où Jésus a donné sa vie pour que nous soyons saints pour Dieu. La colère de Dieu, elle s'est abattue sur quelqu'un. Elle s'est abattue sur Jésus. C'est lui qui a pris le poids, c'est lui qui a pris la conséquence, c'est lui qui a pris la sentence de nos fautes pour que nous soyons déclarés justes et saints. La possibilité de s'approcher de Dieu n'existe que sur la base du sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et puis, on peut nous dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a fallu que quelqu'un paye le prix fort pour que nous puissions être réconciliés. L'expiation trouve sa raison d'être, sa plus profonde raison d'être, et son urgence dans la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est saint, le péché doit être couvert avant qu'il puisse y avoir une communion entre le pécheur et son Dieu. Si Dieu est un Dieu qui fait grâce, si Dieu est un Dieu qui nous sauve, alors que nous ne méritons pas, la grâce, elle a coûté très cher. La grâce, elle a coûté très cher. La grâce n'est pas à balancer. C'est Jésus qui a payé le note. C'est Jésus qui a payé l'addition pour chacun d'entre nous. Pas une grâce à remarquer. C'est pas un effet de votre vie, je vous aime, venez mes enfants. Quelqu'un a payé. Ça a coûté la vie de ce Dieu, de celui que Dieu, de ce que Dieu avait préféré, son fils Jésus. Nous devons donc considérer l'horreur de notre péché et ce que cela a coûté pour réaliser la grâce dont nous sommes bénéficiaires. Le théologien Hervant Aurel dira la chose suivante. L'amour de Dieu pour les pécheurs ne sera jamais apprécié à sa valeur, jusqu'à ce qu'il soit vu à la lumière de sa colère fulminante contre le péché. Et que quand on comprend l'horreur du péché, on comprend la puissance et la beauté de la grâce. Quand je comprends que j'étais quelqu'un de pourri, que ma vie était complètement pourrie, que je faisais n'importe quoi, que je faisais du mal aux gens autour de moi. Et j'ai pu saisir que Dieu avait donné sa vie pour moi. Pour dire, personne pour toi, tout ça, c'est fini maintenant, tu es mon enfant. Et j'ai une nouvelle vie pour toi. J'ai un nouveau chemin pour ta vie. Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre, que quand on voit, on réalise l'horreur de notre péché, de voir l'infinie splendeur de la grâce de Dieu à notre vie. Arrivé au troisième point maintenant, Dieu nous a mis à terre pour que nous vivions la sainteté. 1 Pierre 15, 16. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saint, car moi, je suis saint. Ce passage parle de lui-même. Pour Dieu, être saint, ça marque une différence. Ça doit marquer une différence. Cela nous rappelle que nous pouvons être saints et marcher en pureté de vie. Parce que Dieu est saint. Vous serez saint parce que je suis saint. C'est lui qui produit en nous. C'est Dieu qui fait le travail en nous. Et on voit que Pierre ici fait référence à un passage de Lévitique dans le chapitre 11. Et dans ce passage-là, si tout à l'heure nous parlons de la sanctification immédiate, nous avons ici la sanctification progressive. Celle qui doit se mettre en place. Celle qui est un processus de croissance dans la ressemblance de Christ. Qui croit ici que sans appel à ressembler plus en plus à Jésus? Jean-Baptiste dira, il faut que je diminue les ce qui croient en moi. On a besoin de ressembler à Jésus. On a besoin de laisser Dieu nous travailler pour que nous ressemblions. Vous savez, le Dieu qui se révèle dans le Nouveau Testament n'est pas plus cool que dans l'Ancien Testament. Beaucoup de gens disent des fois, ah moi j'aime bien dans le Nouveau Testament comment il est Dieu, mais je n'aime pas dans l'Ancien. C'est exactement le même Dieu. La sainteté est toujours requise. Vous savez, tolérer le péché et refuser de s'en séparer, c'est mépriser la grâce de Dieu. Tolérer, accepter le péché dans le vide sans chercher à le combattre, c'est mépriser la grâce de Dieu. Kevin DeYoung, qui est pasteur aux États-Unis, dira que peu importe ce que vous croyez, si vous déshonorez Christ en vous donnant au péché sans vous en repentir, ni changer de votre conduite, vous n'habiterez pas les cieux. Vous n'habiterez pas les cieux. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, la sainteté n'est pas une option. Ou Jésus est le Seigneur de tout, ou il n'est pas le Seigneur du tout. C'est là qu'on a des fois cette façon d'agir où on a enfermé Dieu dans une boîte de nos têtes, et puis il y a certaines zones où Dieu a accès libre, et puis il y a certaines zones où il y a écrit un petit, ici c'est privé. Vous savez, comme quand on va saigner une femme, il y a une porte un peu ouverte, puis des fois il y a un autre écrit privé, ou dans les grandes surfaces, sans issue, avec qui on a celle-ci pour le couloir. Certaines portes, on dit non, là, c'est pas pour vous, il n'y a pas accès. Ou Jésus, le Seigneur du tout, n'est pas le Seigneur du tout. On ne peut pas dire, il y a certaines zones de ma vie. Seigneur, je ne veux pas ta seigneurie de vie. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide ce qui est bon ou pas. Être saint, lorsqu'on parle de personne, c'est un terme qui exprime une parenté avec Dieu. En donnant sa vie à la croix, Jésus a permis que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés. Nous sommes maintenant de sa famille. Nous sommes mis à part par lui pour nous consacrer à lui et vivre selon sa sainteté. Nous devons donc vivre de manière différente de la mentalité de la société dans laquelle on vit et de toutes les perversions qu'on peut voir dans cette société. Et c'est exactement ce que Jacques dira dans ses lettres. Il dit, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Nous ne pouvons pas nous changer par nous-mêmes. Mais lorsque nous plaçons notre foi en Christ, il y a quelque chose qui prend place. Kevin Young dit encore, la foi et les bonnes œuvres sont toutes deux nécessaires. L'une est la racine, l'autre le fruit. L'une est la racine, l'autre le fruit. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est la suivante. Entre le matin où je me lève et le soir où je me couche, est-ce que je décide de coopérer avec Dieu, de coopérer avec son projet pour ma vie, de laisser me rendre saint? Est-ce que je souhaite que Jésus soit celui qui règne sur tous les compartiments de ma vie? Alors, une fois avoir dit ça, il est important pour nous de réaliser maintenant ce que Dieu entend par sainteté. Paul André, c'est un des sentiments dans la lettre aux Colossiens, et je vais vous les lire. Colossiens 3, versets 5 et 9. Paul dit, faites donc mourir en vous ce qui est à l'air. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Et il dit, vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Nous parlons ici d'immoralité sexuelle, nous parlons de relations sexuelles en mariage entre un homme et une femme. Nous parlons du désir de posséder. Vous savez, beaucoup de gens cherchent à posséder plein de choses pour avoir ce sentiment de sécurité, de dire je suis en sécurité parce que j'ai le pouvoir. On parle beaucoup du pouvoir d'achat en ce moment. Les gens ont besoin d'avoir du pouvoir d'achat pour se sentir en sécurité. Paul nous dit, ne rentre pas dans ce jeu de la soif de posséder. Pour essayer de combler une sécurité que la société ne pourra jamais vous donner. Ça, on le dit souvent, aujourd'hui l'argent vaut ce qu'il vaut, mais demain les trois carrières, tout votre argent, toutes vos économies, tout ce que vous aurez mis du temps sur un compte, ça peut perdre sa valeur en un moment. On peut tout perdre. On ne doit pas chercher à posséder pour combler un manque de sécurité. On nous parle aussi dans le passage de paroles légères, de grossièreté, de mensonges racontés sur le dos des autres. De cultiver la colère contre des gens et chercher à leur faire du mal. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette liste, ça n'a rien à voir avec une vie terne et monotone sans loisir, ou une vie sans plaisir. On n'est pas le plus vital. C'est juste de chercher à mener une vie, de laisser Dieu imprimer en nous sa vie, pour pas que nous nuisions à nous-mêmes et que nous nuisions aux autres, que nous faisions du mal aux autres. Pour ne pas blesser, pour ne pas faire du mal à son conjoint, par exemple, en allant voir ailleurs. Pour ne pas salir ou détruire quelqu'un par nos paroles. Finalement, c'est juste aimer. C'est chercher le bien des autres, chercher le bien de ceux qui nous entourent. Heidegger dira, que signifie réellement le mot sainteté? Il dit, décrit d'une piété négative à laquelle tant de gens ont voulu échapper, nous la supprimons. Dans la Bible, la sainteté désigne l'intégrité morale. Il y a d'ailleurs une faute, hein, je me suis trompé. Ce n'est pas l'intégralité, c'est l'intégrité. L'intégrité morale, une qualité qui, en fait, comprend la beauté, la miséricorde, la pureté, un cœur irréprochable sur le plan moral et la crainte de Dieu. On ne peut l'envisager autrement que de façon positive et lumineuse. Mes amis, si pour vous c'est compliqué de dire ce qui se passe facilement à mon voisin, posez-vous une question de pourquoi vous avez compris le message de l'Évangile. Si pour vous c'est difficile de dire je veux vivre la sainteté, pour ne pas faire de mal à mon conjoint en la trompant, c'est qu'il y a un problème avec qu'est-ce que vous avez compris du message de l'Évangile et de l'amour que nous sommes invités à vivre et à donner. Vous savez, la sainteté, ça concerne qui? Ça concerne les membres de famille qui, en proie à un sentiment d'inutilité ou donc de découragement, sont tentés de trouver du réconfort ou du refuge dans des romans, dans des feuilletons à l'ordre du jour, ou dans les bras du premier homme qui aura une oreille attentive alors que votre mari vous néglige. La sainteté, ça concerne un étudiant qui, face à la pression ambiante, est tenté de se conformer à la mentalité de la société, en se livrant à des distractions qui n'honorent pas Dieu. La sainteté, elle est pour les veuves, les divorcés et les célibataires, qui luttent pour rester sexuellement purs. La sainteté, elle concerne les époux et les épouses qui s'efforcent de ne pas nourrir d'amertume l'un contre l'autre, peut-être parce que l'autre l'a trahi ou abandonné. La sainteté concerne tous ceux qui sont tentés de tricher financièrement pour faire du bénéfice ou du temps. La sainteté, c'est le refus de la sainteté, c'est peut-être aussi quelqu'un qui renonce à la direction spirituelle de son foyer. Elle est pour eux. La sainteté touche à mon comportement avec les sexes opposés. J'aimerais parler aux jeunes gens ce matin. Alors que les jeunes, il y a une pulsion, tout ça, ils ont envie de découvrir celui ou celle qui sera son conjoint pour la vie. Et des fois, on aurait peut-être tendance à un petit peu essayer de chauffer un petit peu tout le monde pour voir lequel va réagir. J'aimerais que tu considères la chose suivante ce matin. Que tu considères que celui ou celle que tu vas essayer de séduire, c'est ton frère ou ta sœur. Est-ce que tu serais du même ton frère ou ta sœur? En cherchant à obtenir quelque chose de cette personne et puis en la délaissant en fait, parce que j'ai trouvé mieux. Considère que celui ou celle qui est à côté de toi, Jésus a donné sa vie pour la sauver, pour faire d'elle ou de lui ton frère ou ta sœur. Juste considère ces choses. Juste considère ces choses. La sainteté concerne ma façon de gérer mes finances, la gestion de mon temps, mes priorités, ma façon de servir mon église locale. Est-ce que l'église locale, c'est la dernière de mes priorités? Est-ce que servir Christ et son église, c'est la dernière de mes priorités qui passe après tout le reste? Ou est-ce que je prends conscience que Dieu m'a choisi ma vie à part que je puisse faire la différence dans cette société et que ça passe avec mes frères et sœurs qui bien souvent peuvent m'énerver, m'embêter, mais j'ai choisi de les utiliser et d'utiliser avec eux pour qu'ensemble nous soyons folles de tout le monde au confinement des sages de l'art. La sainteté touche à ma façon de travailler. Quelle attitude j'ai avec mon patron? Est-ce que je fais semblant de travailler quand mon patron me voit pour qu'il n'y a pas que j'en profite pour rien faire? La sainteté concerne ma façon d'honorer le Seigneur. La sainteté, c'est finalement une invitation à examiner nos attitudes personnelles. Devenir saint, c'est nous engager à nous laisser purifier entièrement et ne laisser aucun détail, aucun recoin fouillé dans notre cœur. Ça commence à l'intérieur par mes motivations du cœur, ma façon de penser, ma manière de voir, mes valeurs. Ça, c'est des choses que seul Dieu peut voir, mais qui vont se traduire par mes comportements. Seigneur agit toujours en fonction de ce qu'on croit. On agit toujours en fonction de ce qu'on pense. Si je crois quelque chose, je vais agir en conséquence. Donc ça va se traduire par des comportements. Alors, une petite attention aussi, attention, pour chacun d'entre nous, à ne pas être plus préoccupé par les manquements de ceux qui m'entourent que par les miens. Et on a souvent tendance à justifier ou à relativiser nos propres vies dans le péché ou nos propres vies du péché qui est chez les autres. On est souvent bien gentil avec nos péchés qu'on voit chez les autres. Ça nous dérange chez les autres, mais chez nous, on est justifié. Jésus nous rappelle qu'avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de notre frère, nous ferions mieux de nous occuper de la pointe, et moi je dis souvent du tronc d'arbre qu'on a planté au milieu du feu. Alors peut-être ce matin vous allez me dire, mais j'ai essayé tout ça. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Vous savez, il n'est pas question de ce que nous devons faire, mais il est question de ce que nous devons nous laisser faire. Et c'est mon quatrième point ce matin. C'est Dieu qui peut produire en nous la sainteté. À Thessaloniciens 5, 23, 24, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Ce passage, c'est une promesse que j'ai reçue dans un camp. C'était pour la préparation du DNJ2, on était à. Je ne sais plus où, là. Il y avait Guy Bergamini qui était là. Et il y a un appel qui est fait à la suite d'un message de Steve Bush, un jeune leader. Et là, il y a Guy qui prie pour moi. Et il me cite ce verset. Quel bien ça m'a fait de savoir que ce n'était pas par mes propres efforts que ça allait se passer, mais que c'est Dieu qui allait produire ça en moi, si moi je décidais de tourner mieux avec les nerfs. De Corinthiens 3, 18, il dit, nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Paul ici nous révèle ce que nous devons faire. Le contempler. Contempler Jésus, c'est-à-dire cultiver du temps dans sa présence et le laisser, lui, nous transformer. Dieu est notre modèle de sainteté, mais il est aussi la source de notre sainteté. Il est le modèle, mais il est notre source, c'est lui qui produit en nous ces choses. Donc il ne s'agit pas pour nous de résister à notre nature corrompue par nous-mêmes en disant je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, parce que tu n'arriveras rien du tout. Mais juste pour tourner le regard vers lui quand c'est dur et de chercher sa face. Il ne s'agit pas donc d'une liste de choses à faire ou pas faire. Kevin Dillon dira encore la chose suivante, un évangile qui ne fait que dicter notre conduite sans annoncer ce que Christ a fait n'est pas l'évangile. Il n'est pas l'évangile. Ce n'est pas simplement que du moralisme, parce que le moralisme n'a jamais changé personne. Il n'y a qu'une personne qui peut changer une personne, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut produire quelque chose en nous, c'est Jésus. Lorsque nous sommes chrétiens, nous désirons être saints, même si ce n'est pas de façon parfaite. Mais notre cœur et ses désirs cherchent la sainteté en s'appuyant sur la grâce qui transforme. Tout à l'heure, on a lu une liste de choses. Il y avait le mot grossièreté qui était dedans. Et ma femme pourrait témoigner que c'est un combat pour moi, des fois, de ne pas dire deux jours. Mais je cherche à ce que Dieu continue de me transformer. Avant de me convertir, je l'avais déjà dans chaque phrase. Aujourd'hui, c'est surtout quand il y a des situations de tension où ça peut m'échapper. Mais j'ai besoin de la grâce de Jésus. Et je veux que ça continue, je veux pouvoir progresser encore dans ce domaine. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je crois qu'il va le faire. C'est lui qui fera en nous. Même si l'œil de mort qui a écrit le livre qui s'appelle La sainteté, quelque chose avec démodé, j'ai oublié le titre, excusez-moi, je n'ai pas. Elle dit si Dieu nous appelle à quelque chose, ce n'est jamais sans nous en rendre capables. Il sait qu'il est impossible d'être saint sans son intervention. C'est sa grâce qui suscite en nous le désir d'être saint et c'est sa grâce qui nous en donne le pouvoir. La sainteté se cultive dans le cadre de notre relation avec Dieu. C'est en passant du temps avec lui, c'est en passant du temps dans sa parole, c'est en cherchant sa face que cette sainteté va pouvoir être en mouvement et commencer à prendre place. Lorsque la tentation ou l'épreuve frappe, Dieu pourvoit à un moyen de nous en sortir. En Colossiens 10, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pour que Dieu puisse pourvoir à notre sainteté, nous devons placer notre confiance et saisir ce que la Bible veut nous communiquer. Jean 17 nous dit, sanctifiez par la vérité, ta parole est la vérité. C'est dans la vérité de ces paroles que nous devons placer notre confiance et non dans les pensées de nos cœurs qui peuvent parfois nous effrayer. Voilà pourquoi nous avons besoin d'examiner nos pensées à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Si les choses que je pense dans mon esprit ne sont pas conformes à ce que la Bible m'enseigne, alors il faut que je les rejette. Auquel cas, je vais me laisser embarquer par le flot de ces pensées et je vais tomber dans le processus du péché. Nous devons et nous pouvons aligner nos pensées sur celles de Dieu. Pour ça, nous avons besoin de passer du temps dans sa parole. Alors, avant de donner vie à nos pensées, nous devons les filtrer par la parole, afin qu'elles ne produisent pas en nous de mauvais fruits si ce sont de mauvaises pensées. John Owen, un célèbre pasteur, a dit la chose suivante, il est décédé, hein, c'était dans les années, il y a très longtemps, 1500 par là, je ne sais plus. Il dit, tous les péchés, sans quoi, c'est lui qui vous tuera. Tous les péchés, sans quoi, c'est lui qui vous tuera. Mais notre mort, le péché, ne consiste pas seulement à nous débarrasser de ce qui est clairement mauvais. Nous devons apprendre à rejeter tout ce qui, sans être forcément un péché en soi, pourrait susciter des pensées ou des comportements mauvais et de ce fait nous inciter à pécher. Il nous faut couper avec tout ce qui est une occasion de pécher. Matthieu 5, 29 à 30, c'est Jésus qui parle d'ici ton œil droit te pousse à mal agir. Arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi si tu viens perdre un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ton main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier et ton enfer. Alors, ne vivez pas la semaine prochaine tous avec un cache-œil, hein. Et puis, avec un moignon à la place de la main. Jésus nous enseigne que nous devons nous couper des situations ou des personnes qui peuvent nous séduire et nous faire tomber. Ainsi que nous couper des situations où je risque par mes actions, c'est ce qui est symbolisé par la main, de tomber dans le péché. Quelques années en arrière, dans mon ancienne église, il y a un couple qui vient en larmes et qui vient donner une parole de connaissance. Et puis finalement, dans ce couple-là, le gars était parti avec une de ses collègues de travail, en fait, il était en train de combattre avec ça. Il était en larmes et il savait qu'il avait fait une erreur, il était là. Et je lui ai dit, il faut que tu coupes de cette relation avec cette personne. Cette collègue ne fait plus de contact avec elle. Et il n'avait pas envie de la faire ce contact. Aujourd'hui, il est divorcé et il s'est marié avec elle. Il est sans une mère et sans enfant. Il n'a pas détesté ce péché. Au point de couper pour pouvoir retravailler à ce vaisseau. Il s'est laissé séduire par ce qu'il a mis dans son cœur. C'est une tristesse pour nous, parce que ça fait toujours du mal. Ça fait toujours du mal à l'Église, ça fait toujours du mal à des gens, ce type de situation. Coupons des situations ou des personnes qui peuvent être nocives pour nous. Et là encore, je parle aussi particulièrement aux jeunes. Il y a peut-être des amitiés qui ne t'entraînent pas vers le bon. Alors peut-être que tu espères pouvoir amener cette personne à Christ, mais si c'est toi qui tombes à chaque fois, tu as besoin de couper. Quand je me suis converti, je jouais au foot. J'étais défenseur à l'arrière droite, j'étais vraiment mauvais sur le terrain. Alors le dimanche matin, je levais les bras au ciel en louant Jésus, mais l'après-midi, j'étais vraiment méchant, hargneux et mauvais. Et j'ai dû arrêter le foot pendant quelques temps. J'ai dû arrêter de jouer en club parce que c'était mauvais pour moi. À ce moment-là. Et puis après tout ce temps, j'ai avancé avec le Seigneur, après j'ai pu reprendre le foot et tout ça s'est passé. Mais il y avait un temps où il fallait que je coupe. Il y a des situations parfois comme ça, tu ne peux pas jouer avec ça. Parce que si tu joues, tu vas te faire bouffer par le péché. Ou tu tues le péché, c'est lui qui va te tuer. Mais il y aura des morts, il y aura un mort, dans tous les cas. Je vais entretenir des situations comme ça, en devant à mettre de l'engrais sur des mauvaises herbes et après pleurer parce qu'il n'y a pas de jardin. On rigole, mais on est comme ça dans le Dieu. On met de l'engrais sur une mauvaise pensée, on met de l'engrais sur tout ça, et puis après on pleure, Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir. Et c'est nous qui entretenons nos pensées. Pourquoi? Parce qu'on ne les examine pas, on ne les filtre pas dans la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, c'est pas, et je le redis encore, c'est pas en lisant des romans, en regardant des séries à l'eau de rose, encourageant la madame à se jeter dans les bras du gentil monsieur qui l'écoute, alors que son mari ne prend pas de temps pour elle, ben c'est plus comme ça que ça va vous aider à lutter sur le plan moral. C'est pas en vous remplissant ça toute la journée que du coup vous allez être fort moralement dans ce domaine. Vous savez, nous ne sommes pas si spirituels que nous croyons. On n'est pas plus spirituel au point d'être insensible à l'influence qui est là tous les jours et qui est déversée par nous. Au travers de médias, au travers de toutes sortes de choses. Attention donc aux distractions qui pourraient nous faire voir le péché sous un jour agréable et nourrir en nous de mauvais désirs. Jésus dira, nous devons être saints car c'est la raison et le but pour lequel Christ est venu dans le monde. Jésus sauve entièrement. Il ne se contente pas de libérer le pécheur et l'amour de ce péché. Il fait beaucoup plus que ça. Il détruit l'emprise du péché sur lui. On a entendu ça dans le monde spirituel ce matin. Vous savez que ça encourage un prédicateur quand c'est un bon spirituel qui introduit un point de son message. L'œuvre de Christ détruit l'emprise du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Sa puissance a été brisée à la croix. Nous sommes libres de lui dire non. Dans la mesure où nous nous laissons conduire et diriger par la parole de Dieu et la puissance de son esprit. Je voudrais terminer ce matin en soulignant un autre danger et qui est particulièrement important dans nos églises et dans cette recherche de la sainteté, c'est de vouloir que les autres agissent comme nous. Prenons le cas de quelqu'un qui a un problème d'alcool. Moi, j'en ai parlé avec le foot tout à l'heure. Quelqu'un qui a un problème d'alcool doit être radical avec l'alcool. Il doit être radical avec lui-même. Il doit stopper tout ce qui peut l'influencer, tout ce qui peut l'emmener à chuter. Peut-être pour certains, aller dans un bar avec des collègues, c'est pas bon. D'aller dans un bar avec des potes, c'est pas bon. Mais il ne doit pas condamner celui qui n'a pas de problème avec cela et qui en consomme raisonnablement et sans abus. Et qui, pour lui, ça fait plaisir d'aller boire un verre avec ses anciens collègues dans un bar. Le danger des fois, c'est qu'on veut que les gens, du coup, fassent comme moi, je suis en train de combattre, alors tout le monde doit faire pareil. Vous savez, c'est si notre œil est nous, et si notre main est nous, c'est un objet qui doit être coupé. Pas couper la main de l'œil du voisin. C'est couper ma main et enlever mon œil. Et je vais donner une citation d'un auteur que vous savez que j'apprécie particulièrement, c'est C.S. Lewis, qui dira « Une des caractéristiques d'un homme mauvais est qu'il ne peut renoncer à une chose sans vouloir que tous les autres l'abandonnent aussi. » Et il dit, telle n'est pas la vie chrétienne. Telle n'est pas la vie chrétienne. Mais il dira encore une fois, et c'est cela que vous avez, à titre individuel, un chrétien peut juger bon d'abandonner toutes sortes de pratiques pour des raisons spécifiques. Le mariage, pour certains, ils ont bon célibat. La viande, le vin ou le cinéma. Mais dès qu'il commence à dire que tel acte est mauvais en soi, ou qu'il toise avec mépris ce qu'il le pratique, il fait ses actes. Le message de la sainteté, c'est un message personnel. C'est de laisser Dieu mettre le doigt sur ce qu'il veut corriger en nous. Quand vous savez, quand Dieu met le doigt sur nous, c'est pas pour nous détruire. Quand Dieu prend des choses sur notre vie, et je crois qu'il le fait ce matin, c'est parce qu'il veut nous mettre à part pour la vie. C'est parce qu'il a une destinée pour ta vie et il ne veut pas que le péché soit un obstacle qui t'empêche d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Je crois que Dieu a prévu des grandes choses pour son Église et sur l'Église. Je crois qu'il a prévu des grandes choses pour nous. Nous avons vu ce matin que la sainteté, c'est quelque chose de sérieux. Je vais inviter l'équipe à s'approcher. Cette sainteté, cette pureté de vie, il désire nous la transmettre, il désire nous la faire vivre. Et il a payé le plus fort pour cela. Jésus a payé le plus fort. Vous savez, il est avec nous au quotidien. Son esprit et sa parole nous donne les moyens et nous donne les clés pour vivre une vie de ce côté que tu reflètes. Mais c'est à nous de le contempler. C'est à nous de décider de détourner nos regards de tout ce qu'on peut nous proposer et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin de ta voix pour que mes regards soient alignés sur le tien, pour que mes pensées soient alignées sur le tien et que j'agisse comme tu veux que j'agisse. Seigneur, Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour que nous puissions le respecter. Vous savez, comme une photo et l'image de quelque chose, notre vie a pour but de refléter l'image de Dieu. Notre vie doit le rendre crédible aux yeux du monde. Et finira avec cette citation de Charles Spurgeon qui dira « Plus une église marchera dans la sainteté, plus son témoignage pour Christ sera puissant. » Si nous voulons faire la différence, contemplons Jésus, contemplons sa parole, passons du temps avec lui. Et laissons-le mettre le doigt sur les sources personnelles de nos vies pour pouvoir grandir. Donc, pour commencer à jouer, j'ai prié pour reprendre cette partie-là. Je voudrais inviter ce matin des gens qui se sentent comme aisés. Lorsqu'ils ont compris la sainteté, ont compris la sainteté de Dieu, c'est du Seigneur qui m'a empêché. Il y a peut-être des gens ce matin qui sont dans ce lieu et qui se sentent condamnés par le poids de leur faute. Mais je crois que comme Dieu l'a fait pour les élèves, il veut passer dans les rangs ce matin avec cette brise. Pour te dire, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné ma vie pour que nous puissions être en communion. J'ai donné ma vie pour que nous puissions être réconciliés. Et je crois que ce matin, le Seigneur nous appelle à nous faire confiance. Tu ne peux pas te rendre sain par toi-même. Mais lui peut produire en toi si tu décides de le laisser agir. Alors ce matin, alors que les yeux sont fermés, si dans ton cœur tu te sens interpellé, t'invite simplement à poser deux doigts à ta place. Pour dire ainsi, le Seigneur l'a entendu. Et je veux saisir la braise de Christ qui est mort à cause de mes fautes. Je veux saisir l'horreur de mes péchés ce matin. Et je veux comprendre l'horreur de mes péchés. Et je veux saisir ta grâce qui est en encore ce matin. Je crois que ce matin, tu en visite plusieurs. Ça porte en vrai. Ça porte tout ce matin dans ce lieu. Il est celui qui te dit qu'il ne te condamne pas. Il est celui qui t'appelle à marcher avec lui, à lui faire confiance. Ta famille, pour ton foyer, peut-être pour ton couple ce matin. Celui qui appelle ton jeune gens à la paix. Il ne fait pas pour nous embêter. C'est parce qu'il a des projets de paix, des vrais projets qui vont nous combler. Il a quelqu'un pour toi, pour ta vie. Et il ne te fait pas piéger par la nuit. Parce que tu vas jouer du péché pendant quelques temps et après tu vas être malheureux. Jésus t'aime ce matin. Jésus t'aime ce matin. Sa sainteté, ce n'est pas quelque chose de loin, parce qu'il veut ta communauté. Il veut agir dans ton cœur. Il t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin, venir la revenir. Il est ce Dieu qui t'aime. Il est ce Dieu juste qui a payé le prix fort pour que tu te réconcilies. Cet esprit se prie tous ces matins. Je te prie de visiter ce matin avec toi. Seigneur, tu es celui qui a allumé un feu et qui a préparé des poissons pour un Pierre qui l'avait rejeté. Alors que Pierre avait renié son maître, alors que Jésus est ressuscité, et que Pierre était retourné à la pêche, Jésus s'est mis sur la plage. Il avait préparé un feu pour réchauffer son cœur. Il avait préparé de la nourriture pour le nourrir. Et quand ce matin, c'est l'œuvre que tu as fait. Mais là, avec le feu de ton esprit, et il te pousse là-dessus. Il te pousse là-dessus avec le nom de Jésus. Il te dit qu'on est espère. Là, il a préparé des messieurs qui l'ont préparé. Mais ne te laisse pas séduire par tes pensées. S'il peut te penser au travers de la parole, il veut être ce maître qui t'accompagne au quotidien. Il est un Dieu bleu. On l'a entendu la semaine dernière, il est un Dieu fidèle. Même si tu es un fidèle, Dieu te remercie de cette attention. Que sa grâce nous accompagne encore. Que sa vie encore nous accompagne. Que tu es ce matin. De sortir dans ce lieu, d'encourager. Et de lever une génération de quelqu'un qui dit Seigneur, je veux te recevoir. Je veux te laisser agir en moi. Nous voulons être cette église vivante et vraie. Parce que nous voyons que Jésus est encore là pour se consoler. Il touche les cœurs, il sent Jésus, il guérit les malades encore. Amen. Il est le Dieu fidèle et bénéficiaire. Soyez bénis.